7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comment changer de regard sur le handicap? Lui qui pèse dans la relation aux autres s'impose incontournable et se met presque à cacher tout le reste. Comment intégrer les personnes handicapées à la société pleinement, sans stéréotypes, loin de toute méfiance ou stigmatisation, et faire que le regard des autres ne soit pas un handicap de plus? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités engagés dans ce combat pour nous encourager à changer de regard sur le handicap. Bonjour Anne-Sara Cartudo.
Bonjour.
Vous êtes juriste, directrice de l'association Droit Pluriel, qui milite pour une justice accessible à tous. Vous êtes par ailleurs malentendante, vous portez un appareil auditif, et depuis peu, depuis 4 ans, vous êtes également non-voyante. En face de vous, Alfredo Oliveira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien argentin d'origine. Vous avez fondé à Buenos Aires la radio Colifata en 91, première radio au monde au sein d'un hôpital psychiatrique, baptisée dans les médias la radio des fous, même s'il faut, vous le dites, se méfier d'une telle expression. Et depuis, vous donnez vie à d'autres radios sur ce principe, donc que des personnes en souffrance psychique puissent s'exprimer seules, décider des sujets dont elles veulent débattre à la radio. Et comme vous vivez en France depuis près de 6 ans, la Colifata a plusieurs sœurs françaises dans différentes institutions psychiatriques. On va entendre tout ça, vous allez voir. Les voisins, c'est assez impressionnant.
Handicap, infirmité ou déficience, congénitale ou acquise. Des avantages souvent naturels, infériorité qu'on doit supporter.
Alors c'est ainsi que le dictionnaire Larousse définit le handicap. Anne-Sara Cartudo, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec cette définition et que c'est aussi l'un de vos combats juridiques.
Oui, bah qui pourrait être d'accord ? Qui pourrait être d'accord pour se reconnaître dans la notion d'infériorité ? Donc moi par exemple, je suis effectivement, j'ai aucun problème à dire que je suis aveugle ou non-voyante, que je suis malentendante, sourde, enfin comme vous voulez. Mais le terme de handicap tel qu'il est entendu dans la société et tel qu'il est défini dans le dictionnaire, ça pose un vrai problème.
Avec cette notion d'infériorité.
La notion d'infériorité, ouais. Et puis on lit aussi dans le dictionnaire pour les jeunes, chose qui diminue les chances d'épanouissement et de réussite. Ce qui est compliqué aussi pour un enfant aujourd'hui quand il est sourd, aveugle, paraplégique, etc. D'emblée, avoir cette définition-là pour l'avenir, c'est compliqué.
Et les mots ont bien sûr un sens. Alfredo Oliveira, qu'est-ce que ce combat vous inspire ?
Non, je prends ce que vous venez de dire, condition d'infériorité. C'est difficile, non, commencer à partir de ça, faire partie d'eux, et à partir d'une définition avec telle force. Parce que les problèmes, plusieurs fois, c'est pas le fait de la reconnaissance d'une difficulté, sinon aussi les conséquences sur la construction d'identité. Et passer ta vie à sentir que tout le temps tu es en condition d'infériorité et aussi devant le regard des autres, ça ne nous aide pas.
Et vous, par exemple, vous parlez beaucoup de souffrance psychique plutôt que de folie.
Oui,
c'est un mot très stigmatisant.
Oui, les problèmes, à mon avis, les problèmes de la souffrance psychique, de la folie, des fous, des folles, etc., ce n'est pas uniquement un problème sémantique. Parce que nous pouvons trouver tout le temps des mots politiquement corrects, mais il y a des fois que les mots politiquement corrects viennent à obturer, à empêcher la possibilité d'ouvrir la problématique dans plusieurs dimensions. Et la question de l'handicap et aussi la question de comment aborder ce type de phénomène qu'on appelle la folie, c'est très complexe. Ça veut dire qu'on essaye de jouer avec, dans les champs de la sémiotique et de la sémantique, mais aussi on essaye d'ouvrir plusieurs autres dimensions pour aider aux autres, les autres, c'est notre auditeur, c'est la société, à déconstruire certaines notions, certaines représentations sociales imaginaires par rapport à la souffrance, la folie et l'handicap.
Alors Anne-Sarah Cartudot, on va revenir sur votre parcours qui a inspiré, qui a nourri votre engagement.
Moi je veux bien rebondir là-dessus.
Oui, allez-y.
Parce que je trouve qu'on est au cœur du problème. Effectivement, on ne se bat pas sur les mots. Hein. Moi souvent quand je parle de ce problème du mot handicap qui veut dire dans le dictionnaire infériorité, on me répond, bah oui, nous on parle de gens exceptionnels ou les gens remplacent un mot par un autre. On n'est pas en train de parler de mots là. Au-delà, moi je fais des interventions dans les écoles par exemple et souvent je leur dis, est-ce que, voilà, à un moment quand on est en confiance, je leur dis, est-ce que handicapé, c'est une injure ? Ils me disent, bah ouais, bien sûr, bah ouais, ouais, ça l'handicapé, ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Est-ce que moi, je suis handicapé ? Alors là, ils sont embêtés, ils font, bah, ouais, quand même, madame, ouais, enfin, ben, quand même, vous voyez pas, et quand même, vous n'entendez pas bien, alors, ouais, mais... Et c'est ça, on parle de ça. C'est-à-dire, on peut pas se construire sur une représentation sociale qui vous place en dessous, qui vous sort de l'égalité. Et on est vraiment sur cette question-là. Donc, c'est pas un problème de mots, faut pas remplacer le mot handicap par un autre. Faut réfléchir à cette notion.
À ce qu'on met dans ce mot, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que je pense que, le fait d'être... en fait, le handicap, c'est un empêchement. Et on est tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, on est empêchés. Qu'on voit, qu'on voit pas, qu'on entende, qu'on soit fou. Enfin, de toute façon, à un moment ou à un autre, on est empêché pour plein de raisons. Parce qu'on est timide, parce qu'on est complexé, parce qu'on se sent pas en confiance. Il y a plein de raisons qui font qu'on est empêché. Mais quelqu'un qui serait empêché 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute sa vie, ça, c'est pas possible et ça n'existe pas.
Et alors, pour revenir un petit peu donc, sur votre parcours, vous êtes malentendante depuis l'adolescence, depuis le collège, et vous racontez que vous avez été mise à l'écart à ce moment-là. En quoi cette période a nourri votre engagement aujourd'hui ?
Alors, j'ai été effectivement mise à l'écart, et puis je me suis mise aussi à l'écart, parce que mon histoire, elle est celle de plein d'enfants qui sont différents. On connaît la cour de récréation et sa violence naturelle. Et après, moi, ce que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, je peux pas me représenter, je peux pas me construire avec ça. Donc, je me suis dit, il faut que je cache ma surdité. Et pendant toute une période de ma vie, ce qui comptait, c'était que ça ne se voit pas, être comme les autres. C'était ça, mon but et le sens de ma construction. Ça m'enfermait dans un mensonge. Toute mon énergie, au lieu de développer mes compétences, c'était uniquement concentré à cacher ce que j'étais. Et à un moment, j'ai compris... parce que j'ai rencontré le militantisme et parce que je me suis investie dans des questions politiques à travers l'association de droit au logement, j'ai compris que le problème, c'était pas en moi, c'était pas mon corps, c'était le regard social sur une situation. Et que ce qu'il fallait changer, c'était ce regard-là, qui était le même qu'à un moment, quand on dit les personnes de couleur, par exemple, ça veut dire que je me pose, moi, blanc, en norme, et il y a les autres. Et le handicap, c'est exactement pareil. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et finalement, ça m'a permis de comprendre que mon combat, il n'était pas entre moi et moi, il était sur une question politique.
Et en quoi défendre la cause des mal logés vous a aidé, justement ? Vous a sauvé ?
Ouais, j'ai compris que c'était d'abord à travers un combat politique qu'on pouvait exister, qu'on pouvait se revendiquer, que si on restait chacun dans nos difficultés isolés, c'était ingérable, c'était impossible, et qu'il fallait ensemble aller vers plus de justice et plus d'égalité, et que finalement le handicap n'était pas une question différente, c'était pas un problème à part, comme on voit souvent, c'est une question sociale, sociétale, comme les autres. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était exactement la même démarche à faire. C'est-à-dire qu'il fallait ensemble se dire, ça, c'est pas normal, et ensemble faire bouger les choses.
Et se mobiliser. Mmh. Alors, en 2002, vous avez ouvert la première permanence juridique en langue des signes à Paris, à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Avant, ça n'existait pas en France ?
Avant, il n'y avait pas de lieu, effectivement, pour que les sourds puissent, en langue des signes, aller s'informer sur leurs droits. Alors que c'est un droit qui est reconnu à tout citoyen. Pour une personne sourde, il n'y avait pas d'endroit où aller.
Et vous alertez sur la situation des personnes sourdes en France. Peu d'entre eux parlent la langue des signes. Et parmi les signeurs, comme on les appelle, 80% sont analphabètes.
Oui, ils ont des grosses difficultés à l'écrit, ce qui fait que, alors c'est en train de changer, mais ça veut dire que pour eux, moi quand j'ai ouvert le service, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas eu du tout d'accès aux droits, c'est-à-dire qu'ils savaient pas du tout comment faire pour divorcer, et donc ils restaient ensemble mariés depuis des années alors qu'ils souhaitaient être divorcés, des gens qui avaient été renvoyés de leur travail d'un geste de la main, qui savaient pas si c'était normal, pas normal, qui me racontaient ça comme, voilà, des gens qui pensaient on sait que forcer un rapport sexuel dans le mariage, c'était quelque chose de normal. Des gens, des femmes aussi, sur la question du viol, des femmes qui allaient déposer plainte au commissariat sur une situation de viol, à qui on demandait de mimer leur viol parce qu'il n'y avait pas d'interprète, ça n'avait pas été prévu. Ces gens-là, non. C'est comme s'ils n'avaient pas été prévus dans la société. Comme si on avait oublié qu'ils existaient, on ne savait pas. Et donc rien n'est prévu.
Ils n'ont pas accès à la justice et donc à leurs droits, en fait. À la défense de leurs droits.
Oui. Ni à la connaissance de leurs droits, ce qui est essentiel, ni à l'exercice de leurs droits. C'est-à-dire au moment où ils veulent faire valoir leurs droits, ils se cognent à une porte parce que c'est pas organisé.
Alfredo Oliveira, vous êtes donc psychologue de formation et un jour vous avez eu cette idée de lancer la radio Colifata. C'était il y a 27 ans maintenant. Mm-hmm. Et Colifata, ça veut dire folle dingue, à peu près.
Quelque chose comme ça, oui.
Alors comment vous est venue cette idée-là et pourquoi passer par la radio, donc au sein d'un hôpital psychiatrique à Buenos Aires?
Pourquoi une radio aussi s'appelle Colifata, folle dingue? Et on dit qu'on lutte contre la stigmatisation et
c'est vrai,
et
la
tout
question
ça.
Se pose aussi.
Et c'est justement, j'ai trouvé intéressant aussi qu'est-ce qui a dit mes collègues. Vous avez dit plein de choses, mais entre autres, l'effet de dire que quand vous avez été à l'école, pas à l'école, quand vous développez des ateliers devant les autres pour travailler la question de la notion de handicap, vous commencez pour laisser venir les représentations, la signification sociale imaginaire des gens dans la parole des étudiants. La Colifata, comment est-ce qu'elle est devenue avec un homme comme ça? Les patients, ils sont les gens, les participants à l'époque d'un atelier de réflexion autour de la vie, avec la particularité d'être enregistré. Ils ont participé autour des différents sujets et dans l'aller-retour entre ce que nous avons enregistré et les petits moments et dans les autres radios normales, on va dire, de la ville, qu'ils sont gentiment diffusés le petit extrait de notre réflexion commun. Un auditeur nous a demandé « Mais vous appelez comment ?» Et c'est à partir de ça que les participants de la radio, ils sont choisis presque à 40 noms possibles entre eux et aussi dans les différents pavillons de l'asile à Buenos Aires. Ils ne sont pas mis d'accord et un patient, il a dit « Oui, mais peut-être nous pouvons envoyer l'enregistrement aux différentes radios qui nous rediffusent et pour permettre à notre auditeur de choisir, de voter, de faire un vote. » Et c'est curieux parce qu'on a eu 40 possibilités différentes pour avoir un homme. Et l'unique signifiant, l'unique mot lié à la folie était Colifata. Et c'est la société qui nous a renvoyés dans cette place. Mais avec la petite différence que les mots Colifata, c'est un mot affectif, affectueux, respectueux aussi, et qui nous a permis de dédramatiser la problématique pour faciliter un approche en aller-retour, en rencontre avec les autres. Et on a dit, ok, on va partir, on commence et en acceptant ce type d'opération sociale qu'il est en train de se faire pour les questionner, pour introduire une question autour de ça. Et tout ça nous a permis aussi de dérouler toute la stratégie de déconstruction de certaines significations sociales imaginaires, etc.
Et l'idée, c'est de créer donc des émissions de radio en incluant des patients d'institutions psychiatriques, du personnel de santé aussi, et puis des auditeurs qui voudraient participer. Ce sont les patients qui choisissent les thèmes. L'idée n'est bien sûr pas de parler uniquement de psychiatrie. On parle de plein de choses sur la Colifata.
Non, de la vie. De réfléchir autour de l'humain. Et aussi, on a pu développer une stratégie communicationnelle qui a bien fonctionné en Argentine, qui c'est justement à partir de pas avoir un émetteur, pas d'antenne, pas d'argent, pas de rien, presque rien, mais...
Des micros.
Pas des micros, un petit enregistreur, et surtout les désirs et la nécessité de se mettre en contact avec les autres. On a développé une stratégie transversale, on va dire, qui nous a permis de faire petites capsules qui sont diffusées dans plusieurs radios publiques, privées, associatives de l'Argentine. Et tout ça... Et vraiment, ça permet aussi de sortir du circuit circonscrit aux handicaps et d'une façon transversale créer conditions des possibilités pour une rencontre qui va nous permettre les changements de par rapport au regard, mais aussi va nous permettre de laisser venir toute la créativité de notre auditeur par rapport à un problème complexe et à la fois accompagner le processus de déconstruction subjective d'une identité liée à la maladie et une reconstitution, si vous voulez, subjective d'une identité singulier, absolument singulier.
Ils ne sont plus patients, ils sont animateurs de radio, en fait, à ce moment-là.
Oui, animateurs de radio, mais ça, ou pas. Parce que, justement, l'idée, c'est d'ouvrir un espace pour se produire en tant que sujet humain, que peut devenir... Il y a certains qui, aujourd'hui, ils aiment beaucoup la radio, ils continuent à faire la radio, mais la radio, pour plus sûr, nous a aidés aussi à se produire en tant que sujet humain, pas nécessairement lié au journalisme. Et c'est ça qui aussi c'est intéressant. C'est justement...
C'est une vraie fenêtre d'expression, en fait.
Oui, d'expression, des rencontres et des changements.
Et parmi les thèmes abordés, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec la Coupe du Monde, vous allez reconnaître.
Attention, muchacho.
Se frena, tiene esa pausa de 3 segundos. Está cerca de concretar el segundo gol. Se viene San Lorenzo con Ortigosa. Avanza Orti. Es Ortigosa, toca para atrás con Matías Caruso. Caruso piensa. Sigue con la bocha San Lorenzo con Caruso. Envía el centro para Matos.
Nous entendons, c'est nous avons ça. Entendu la radio La Califata en train de commenter un match de foot de l'équipe, alors j'espère que je vais bien prononcer, San Lorenzo de Almagro.
Oui, une grande équipe argentine. Et ça, justement, c'est parfait, parce que l'idée, c'est de... C'est qui raconte les matchs? C'est les patients de l'hôpital psychiatrique? C'est qui? Non, les commentateurs du match, ils sont les patients qui sortent de l'hôpital. Mais ceux qui racontent les matchs en direct tous les dimanches, c'est un auditeur. Mais chaque match, on reçoit une lettre, un email de la part des différents auditeurs, et c'est les patients qui disent « Ok, vous pouvez venir ». Ça, c'est important parce que, justement, la question, c'est pas de développer une pratique alternative, sinon d'introduire un gène, si vous voulez, un geste altératif par rapport à une logique qui a été instituée. Nous sommes une tactique instituant. Ça veut dire, nous pouvons tous ensemble développer certains projets qui concernent à tout le monde. Ça aussi fait partie d'une construction transversale pour travailler la problématique de la stigmatisation de la folie et à la fois pour accompagner le processus de récupération de la vie psychique pour améliorer aussi la vie des gens, pour se sentir mieux.
Oui, parce qu'il y a aussi évidemment une ambition thérapeutique
aussi,
dans cette radio.
Aussi. C'est pour ça que, justement, on se confronte dans la complexité entre les regards de l'autre, qui viennent à nous construire, les regards de moi-même, ou de soi-même, à la fois toutes les catégories diagnostiques qui peuvent nous servir pour faire une dégradation de l'être humain, ou pour, en tout cas, écouter certains invariantes un peu stéréotypées. Et à partir de la radio, on va essayer, de au niveau expérientiel, existentiel, se retrouver avec une nouvelle version de soi-même. Ça veut dire qu'un patient arrive à faire des choses qu'avant, quand un être humain, une personne, arrive à faire des choses qui avant ont été impossibles, pour l'exemple, dire à un raconteur de football, ok, venez-vous, et on fait la place pour vous, et aider un étudiant de journalisme sportif à faire sa carrière, ça change plein de choses.
Ça crée du lien. Alors, Alfredo Oliveira, vous avez aussi inspiré la création de Radio Citron en France en 2009. Radio Citron, c'est une radio animée par les patients et les usagers du service d'accompagnement à la vie sociale du 18e arrondissement de Paris et des personnes prises en charge dans deux hôpitaux de jour à Paris. Sur cette radio, on se permet tout et même de dialoguer avec une bougie. Écoutez.
Radio Citron, une radio sans pépin.
Interview d'une bougie. C'est la première fois qu'une bougie accepte de se prêter au jeu de l'interview. Et j'en suis très heureuse, car le jeu en vaut la chandelle. Bonjour. Pouvez-vous nous dire votre âge ?
Non, je ne compte plus les années. J'existe depuis toujours et je prends un an à chaque fois que je fête un anniversaire. Parfois, il m'arrive de prendre plusieurs années en une seule journée.
Et ça ne vous fait pas peur de vieillir ?
Il est vrai que je commence à me flétrir, mais la bougie ne fait pas le moine. Plus le temps passe, je fais de nouvelles rencontres et plus je suis épanouie.
Vous a-t-on déjà demandé de tenir la chandelle ?
Oui, plus souvent qu'à mon tour. Mais quand j'en ai marre, je m'éteins. Je ne vaux pas la chandelle.
Seriez-vous prête à vendre la mèche à d'autres personnes ?
Non, certainement pas. Ma mèche, c'est la seule chose qui me fait briller et me fait vivre.
Avez-vous peur de l'obscurité ?
Non, je sais qu'en cas de panne électrique, je suis la seule à briller dans le noir.
Quelle est votre plus grande qualité ?
Je suis toujours bien cirée.
Et votre principal défaut ?
Je suis souvent dans le cirage.
Combien de fois dans votre vie avez-vous déclaré votre flamme ?
À chaque fois qu'on m'allume.
Aimez-vous les voyages ?
Oui, d'ailleurs, je pars souvent en voyage. Ma dernière destination a été Lourdes.
Pour finir, avez-vous un mot à ajouter ?
Oui, j'aimerais dire que jamais la lumière électrique ne remplacera la chaleur d'une bougie.
Merci d'avoir eu la patience de répondre à mes questions.
Merci, je suis à bout de souffle.
Morceau choisi de Radio Citron, radio parisienne animée entre autres par des patients d'hôpitaux de jour en psychiatrie. Anne-Sarah Kertudo, que vous inspirent tous ces jeux de mots très bien trouvés autour de la bougie et puis de manière générale toute cette démarche.
Ah ben moi je trouve que c'était très joli cet extrait, et puis sur la démarche je trouve ça formidable parce qu'on parle de la même chose avec Alfredo, c'est-à-dire que on parle de le dire, de la visibilité, de il faut se décontracter là un peu avec la question du handicap, c'est pas grave quoi. Et se montrer, le dire, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que sur tout ce qui est psychique, par exemple, maladie, trouble psychique, on laisse croire, mais qui le croit encore, qu'il y a les gens normaux et puis les autres, les fous. Et il y a une espèce de frontière qui nous sépare. On est d'un côté ou de l'autre, c'est complètement étanche et il faut s'accrocher à son côté quand on est du côté normal et surtout pas laisser penser qu'on pourrait être de l'autre côté. Et il faut un moment se dire le trouble psychique, c'est 20% de la population qui va le connaître à un moment ou à un autre de sa vie. Des gens qui sont en dépression, des gens qui sont bipolaires, des gens qui sont schizophrènes, on en connaît tous, on les croise. Mais eux, s'efforcent de le cacher, de ne pas le dire. Et donc je pense qu'il faut à un moment se dire, voilà, ça peut, d'abord ça peut arriver à tout le monde, ou ça peut arriver à n'importe quel proche. C'est quelque chose de normal dans la vie, il n'y a pas de souci. Le handicap en général, c'est pas grave, quoi. Quand on a préparé cette émission, par exemple, à un moment, vous m'avez dit, vous êtes devenue malvoyante depuis 4 ans. Et je vous ai dit, non, je suis aveugle. Et il ne faut pas penser
avoir peur des
mots. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots et puis peur de... Ça ne me dévalorise pas d'être aveugle. Et ce n'est pas une injure. Donc, il faut qu'on arrive à passer ce cap-là, de se dire c'est quelque chose qui n'est pas en soi grave. Après, ça pose des problèmes et il faut régler ces problèmes-là. Mais il ne faut pas se rajouter des problèmes de représentation, d'angoisse, de peur de ce que ça pourrait être. Et faut vraiment.
Pourquoi justement vous pensez qu'on n'ose pas prononcer ces mots-là, qu'il y a un certain malaise autour de ça ? Comment vous l'expliquez ?
À cause de cette histoire d'infériorité. Vraiment, c'est ça qui pose souci. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai rencontré un journaliste dans un café, donc j'arrive, j'ai une canne blanche pour me déplacer, et donc il m'accompagne à la table de café, on discute, on s'amuse bien, il habite Montpellier, il me parle de Montpellier, on parle des enfants, les siens, les miens, etc., on a plein de choses en commun, bon, puis à un moment on se dit, allez, on travaille maintenant, on fait l'interview. Alors il avait 3 questions, la première c'est comment parler à une personne handicapée. La deuxième, c'était comment se déplacer, comment aider une personne handicapée à se déplacer. Et la troisième, c'était comment ne pas avoir pitié ou ne pas être condescendant. Et je lui dis, attendez, les personnes handicapées, c'est moi. Ça n'est rien d'autre que moi. Laissez tomber vos représentations, vos angoisses, vos peurs, c'est moi. C'est juste des gens normaux que vous avez croisés ici, là.
Avec qui vous prenez un café.
Voilà. Et en fait, la représentation est tellement forte qu'ils se disaient, c'est encore quelqu'un d'autre. On venait pour parler de ça et ils se disaient, c'est autre, quelqu'un d'autre, le handicap, c'est cette espèce de spectre, je ne sais pas comment il l'imagine, mais c'est forcément un fantôme, quoi, quelque chose qui n'existe pas. Donc, débarrassons-nous de ces représentations-là, puis parlons-nous voilà, entre êtres humains. Quoi.
Alors vous aussi, Anne-Sara Cartudo, vous avez recours dans votre combat à l'audiovisuel. Vous avez réalisé un documentaire, Parents à part entière, diffusé sur la chaîne de télévision France 5. On va en entendre un extrait, mais d'abord, on retrouve le Staff Benda Bilili. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un joyeux orchestre de Kinshasa dont les musiciens sont en fauteuil roulant. Osali Mabé, c'est tout de suite sur RFI.
Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'enfuis? Reviens, reviens, reviens mon amour.
C'était le Staff Benda Bilili sur RFI. Pour ces musiciens de Kinshasa, ils le clament, le handicap est principalement psychologique. Benda Bilili signifie d'ailleurs « regarde au-delà des apparences ». Alors comment porter un autre regard sur le handicap? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Et nos deux invités du jour mènent chacun à leur manière un combat en ce sens. Un combat source d'inspiration. Nous sommes en compagnie du psychologue argentin Alfredo Oliveira qui a fondé à Buenos Aires la première radio au monde qui émet depuis un hôpital psychiatrique, la radio Colifata, radio qui a ouvert la voie à bien d'autres dans le monde, notamment en France. Et avec nous également Anne-Sara Cartudo, juriste, directrice de l'association Droit Pluriel, qui milite pour une justice accessible à tous et aussi réalisatrice de documentaires.
Je suis Anne-Sara Cartudo, je suis maman de deux enfants. J'ai perdu la vue il y a 2 ans. C'est un bouleversement de perdre la vue. Mais dès que j'ai digéré ce choc, j'ai su assez rapidement que je m'adapterais. Trouver des solutions pour les déplacements, le travail, la lecture et toutes les petites choses du quotidien, cela me paraissait possible. En revanche, parmi les choses qui m'inquiétaient vraiment, il y avait celle-là. Comment j'allais rester maman? Comment j'allais suivre les devoirs, chasser l'araignée qui faisait peur à ma fille, faire des gâteaux au chocolat et rester le parent, l'adulte qui aide, qui guide, qui rassure? Bien sûr, je serai aidée.
Salut!
Il y aurait le papa.
Salut papa!
Le papa voyant, mais je voulais rester une vraie mère, parent à part entière.
Parents à part entière, c'est le titre du documentaire que vous avez réalisé, Anne-Sara Kertudo, diffusé sur France 5. Parentalité, vie de famille et handicap, on en a parlé la semaine dernière dans notre émission. Et ces questions vous ont hanté un moment, vous qui êtes devenue aveugle, je vais dire le mot, en 2014.
Bravo. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça m'a questionnée à titre personnel, mais surtout, mon combat, c'est la justice, donc c'était quelque chose que je rencontrais depuis longtemps dans la justice. Le fait que les professionnels de la justice avaient du mal à envisager la parentalité de parents, de pères, de mères, qui soient aveugles, sourds, qu'on parlait tout à l'heure de schizophrènes, autistes, etc. C'était quelque chose non seulement qu'ils avaient du mal à envisager, mais qui parfois les menait à des jugements extrêmement choquants, quoi. Donc on voit par exemple dans le documentaire qui est toujours disponible d'ailleurs sur France 5, on voit un papa qui raconte comment ça s'est passé et la juge lui a dit: est-ce que vous voyez ce que j'ai dans la main? Il a dit: bah non, vous savez, je suis aveugle. Elle a dit: bon bah alors dans ces cas-là, je vois pas comment vous allez vous occuper d'un enfant, et elle lui a supprimé la garde. Alors, ce qui est très important à mon avis, c'est qu'il n'y a pas des gentils et des méchants. On est tous responsables d'un état de connaissance aujourd'hui qui est nul sur la question du handicap, et que ça, c'est ensemble qu'il va falloir qu'on comble ces lacunes-là. Et il faut se mettre dans la peau de la juge, des avocats. Ils ont peu de temps, ils n'ont pas de référent, ils n'ont pas de formation, et il faut qu'ils décident s'il est possible pour eux de confier un enfant à un parent schizophrène, entièrement paralysé. Dans leur tête, ils se disent: mais comment il va pouvoir assurer sa sécurité? Et ils n'ont pas de réponse là-dessus. Et donc, c'est pas... oui, c'est discriminant, bien sûr, de se dire tout de suite non. Mais en même temps, eux, ils n'ont pas du tout de connaissances là-dessus. Et le but, c'était de montrer dans ce documentaire-là qu'il y a une nécessité, une urgence à la former les professionnels de la justice sur ces questions-là, pour que les décisions soient justes et que, également, de notre côté, les parents puissent être en confiance dans leur rôle de parents, qu'ils se sentent libres à un moment, parce qu'il y en a plein, par exemple, qui vont choisir de ne pas se séparer parce qu'ils ont peur de perdre la garde de l'enfant du fait de leur handicap. Donc, c'est à la fois donner aux professionnels de la justice les outils. Donc ça, c'est le travail que je fais dans mon association de droit pluriel.
Et l'information aussi.
L'information, complètement. Et puis, permettre aux parents d'être fiers, en confiance, à égalité dans leur rôle de parent, handicap ou pas, on peut être parent.
Alfredo Oliveira, qu'est-ce qui a pu vous marquer récemment dans toutes les émissions radio que vous avez contribué à produire?
Bon, plein de choses. Et, on essaye de réfléchir autour de la notion d'handicap. Et moi, je pense aussi qu'il y a un problème lié à la circulation d'eux. Ça veut dire, en Sud-Amérique, les gros hôpitaux psychiatriques, l'asile. Ici en Europe, l'hôpital psychiatrique est aussi plein de structures en santé mentale pour accompagner.
Plein de structures différentes.
Qui
existent,
voilà,
par exemple en France.
La psychiatrie des secteurs, etc. Mais chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a été diagnostiqué, son circuit de circulation, c'est justement sa vie sociale, concerne toujours aux autres qui sont traversés les mêmes circonstances. Ça veut dire que nous, la société occidentale, nous sommes en train toujours de créer des espaces figés. Peut-être au niveau topographique, on a changé, mais la topologie, ça veut dire la logique des relations entre les gens, c'est les fous avec les fous, les immigrants avec les immigrants, etc. etc. Nous faisons aujourd'hui la radio Saint-Nom à Asnières.
Et en région parisienne.
Nous venons d'écouter Radio Citron, c'est qui est, bon, très émouvant d'écouter les amis de l'élan retrouvé. Actuellement, on travaille à Asnières. Et voilà, tous les mardis, la radio en direct, et les gens viennent.
En public.
Et c'est ouvert à tout le monde, peut venir ce qu'il veut dans les théâtres de T2G aujourd'hui. Mais avant d'y aller au T2G, on a été dans une CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Ça veut dire que l'effet de sortir de CATTP et aller au théâtre, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais avant, on a fait la radio comme ça. Et les participants arrivent, mais il y a un qui reste toujours dans l'autre salon. non ? Il vient en pressant quelque chose, mais après, il disparaît. Un jour, quelqu'un a dit, oui, mais où il est, messieurs X, on va dire. Je crois qu'il est en train de dormir à côté. Voilà. On a discuté avec notre collègue après, et différentes positions. Il y a quelqu'un qui dit, oui, non, mais il faut... C'est quelqu'un qui vient, il attaque les cadres. Et on s'est dit, oui, peut-être oui, mais s'il dort, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que peut-être on va faire la radio, et dans un moment, on pose la question, où il est, messieurs X, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir notre correspondant pour aller au salon des côtés?
Un envoyé spécial.
Un envoyé spécial. Et finalement, monsieur X, il est devenu notre correspondant du rêve. Ça veut dire qu'il a été interpellé pour nous raconter ses rêves, parce qu'on a soupoussé que lui, il est en train de... Mais l'histoire
donc vous l'avez inclus en fait dans l'émission de radio.
Voilà, mais c'est grâce à la création de cette passerelle, de ce pont, ce que lui, il nous a raconté certains rêves, mais surtout, il a commencé à écouter les sujets de notre conversation. Et dans ses démarches, lui, il a entendu qu'on a été en train de préparer une émission avec notre radio itinérant dans les forums des associations. Et qu'on a décidé d'interviewer associations culturelles, sportives, politiques, etc. Quand lui, il écoute ça, il dit « j'aime le sport ». Il a rentré à la radio sans nom comme les correspondants de rêve et il est devenu intéressé pour le sport. Finalement, il a abandonné le canapé. Il a commencé à venir tout le temps à la radio et c'est lui qui a pris la responsabilité d'interviewer l'association liée au tennis dernière. Et aujourd'hui, il y a 2 ans que tous les lundis, il fait tennis dans l'association, absolument dehors de nous.
Et ça a créé quelque chose dans sa vie.
Voilà, et tout ça, justement, c'est comment développer des stratégies pour développer aussi une logique plus exogamique. Exogamique au niveau de sortir des circuits circonscrits à la maladie, à la souffrance, à l'handicapé, et produire situations réelles, des rencontres entre les gens.
Et puis ce sont eux, les patients, qui vont interviewer les associations, par exemple.
Ça ne plus, ça, c'est aussi,
eux qui répondent aux questions.
Ça, c'est une intervention dans l'imaginaire social. C'est justement, les gens avec un diagnostic, ils sont très habitués à toujours frapper la porte. Excusez-moi, est-ce que je peux rentrer? Et nous, les normales, disent oui ou non. Et dans les forums des associations, c'est à l'inverse. La radio a devenu la représentante de quartier, dernières, et grâce à la mairie dernière, bien sûr, et pour faire la place, pour donner la place aux différentes associations. Et ce qui a été génial, c'est l'effet que c'est les différentes associations qui viennent nous frapper la porte pour demander si c'est possible d'être interviewé. Et les, entre guillemets, patient dit oui, mais bon, ok, reste un créneau horaire à 15h15, vous pouvez venir, par exemple. Et ça, c'est dignifiant aussi, pour tout le monde.
Et vous avez croisé sur votre route radiophonique Manu Chao, artiste français d'origine espagnole. Vous allez nous raconter. Mais d'abord, on va écouter un extrait d'un album produit avec cet artiste en 2008. La colipata, pa que escuche tu patija. La colipata, pa que baile tu mamá.
Hoy, aquí, en Radio La Colifata.
Radio La Colifata.
Aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui, también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses de estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional que siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que Los locos no son tan locos.
A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro.
Loca. Siempre fui loca.
Yo estoy en el manicomio.
No te pasa, no interesa, ¿no? Hasta que te sucede y caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este que tampoco a mí me interesaba.
Hay distintos tipos de agresión. Voy a escuchar, ignorar, sobremedicar.
Esta noche es la noche de noche.
Sept milliards de voisins, comment changer de regard sur le handicap? Nous parlons entre autres d'une radio argentine, la Colifata, dont l'idée est de créer un pont, une fenêtre de parole entre deux mondes. Un monde qu'on imagine cloisonné, hein, celui des institutions psychiatriques et le reste de la société. Et cela peut passer, on l'entend par la musique, Alfredo Oliveira.
Justement, l'idée c'est d'inventer des nouvelles autoroutes de la communication. Justement pour casser ces circuits ghettifiants. Et par exemple, nous venons d'écouter un travail, et c'est super intéressant l'extrait que vous avez choisi. C'est très difficile de raconter parce que c'est Manu Chao, oui. C'est plusieurs bandes, groupes qui jouent la musique à Barcelone, oui. C'est aussi un groupe argentin, la Colifata, qui sont des auditeurs de la Colifata. Aussi. Ça veut dire que vous avez fait un mélange de plusieurs acteurs, Manu Chao, gens de différents pays du monde qui font de la musique, la voix des patients de l'hôpital psychiatrique, notre auditeur de l'Argentine. C'est justement ça, c'est aborder des nouvelles plateformes de la communication pour produire espace de rencontre. Et cet espace va modifier les deux rivières, les deux... Non, comment c'est dit ça ?
Les deux rives.
Les deux rives, justement.
c'est presque. Donc, exactement. Alors, à quels préjugés les personnes en souffrance psychique font-elles face en Argentine ? Est-ce que ce sont les mêmes, par exemple, qu'en France ? Est-ce que vous avez vu des différences sur ce sujet-là ?
Au fond, je crois qu'ils sont les mêmes, mais la façon d'exprimer la difficulté, c'est différent. Nous, les Argentins, peut-être pour l'influence italienne, je ne sais pas bien, nous sommes beaucoup plus expressifs et aussi chaleureux dans la participation de nos auditeurs à la Colifata. C'est vraiment fort, c'est vraiment intéressant. Mais s'il y a quelqu'un avec un familière avec en souffrance psychique, il doit cacher ça. Et il faut rien dire. Même il y a un support au niveau de la loi beaucoup plus faible que le support qu'il y a ici en France. Ici, tu te mets en arrêt de maladie et après, tu ne vas pas donner beaucoup d'explications. Mais de toute façon, je pense que oui, qu'on invite société qui produit tout le temps l'expulsion des gens. Et ça, c'est pareil ici en France, en Argentine.
Et d'où l'intérêt de mêler, en fait, dans ces émissions, des patients, des personnels de santé, et puis également des auditeurs,
oui,
disons, de la société civile.
Par exemple, maintenant, d'ici à 15 jours, en Argentine, dans son jeune public, ça veut dire, en jeune, c'est la télé, on a développé un projet, ça s'appelle Colifata Filosa, c'est un programme de philosophie. Et la, entre guillemets, maintenant je parle, la folie, entre guillemets, interpelle la fragilité humaine, la condition humaine. Et ce qui parle, peut-être il porte pas une intention critique. Il devient pas, il veut pas devenir philosophe. Non. Mais l'accident provoque au maître et introduit une question qui nous aide à réfléchir autour de l'humaine. On a invité, grâce aux réseaux sociaux, aux étudiants de philosophie à faire partie des programmes de télé. Il y en a fait un grand forum de discussion et de réflexion autour des différents sujets. Les temps, l'acte de rire, etc., etc. Et avec un invité. Résultat, un programme de philosophie qui invite à tout le monde à réfléchir autour de la condition humaine et les stars de programme, c'est pas les fous, sinon les rencontres entre les étudiants qu'ils sont en train de chercher un chemin, les gens qui sortent de la psychiatrie et différents penseurs. Et ça veut dire toujours, nous sommes ouverts à la créativité, à les rencontres et plusieurs idées de la Golifata, ils viennent de la part de notre auditeur. Nous avons une voiture pour sortir de l'hôpital qui a été donnée pour notre auditeur, mais qui a été aussi mis, et que chaque fois qu'il y a un problème, il est un garagiste auditeur de la Golifata qui nous aide. Lui, il n'est pas psychiatre, pas psychologue, il est garagiste. Et la dernière fois, quand il a réussi à faire revivre le moteur de l'ancien deux cheveux, lui, il a presque pleuré. Mais il a dit, pas je l'ai fait pour les gens en souffrance psychique. Il a dit, merci Citroën, 40 ans de travail avec les Citroën, et toujours j'ai des satisfactions. La Golifata a fait la place à Jean Desirant. C'est ça aussi un peu la clé. C'est pas sortir pour dire votre vérité fonctionne pas, je vais imposer ma vérité. Non, on va se rencontrer pour déconstruire certains positionnements.
C'est vraiment de créer du lien en fait.
Ouais.
Anne-Sara Kertudo, est-ce que les regards changeront aussi avec des modèles, des personnes qui réussissent, entre guillemets, qui travaillent, qui prennent la parole publiquement, qui donnent une autre image aussi du handicap ?
Oui, je crois que, bien sûr, comme toutes les luttes, si vous voulez, mais je crois que hier, en fait, c'était les femmes, alors c'est encore aujourd'hui, hein, mais ça a commencé hier, où les hommes se sont dit, bon, si on leur laissait une petite place, finalement, si on leur laissait ouvrir un compte en banque, si on leur laissait une place dans l'emploi, si on les laissait voter, et je crois que on a avancé un petit peu sur l'égalité des femmes avec les hommes. Aujourd'hui, c'est les personnes handicapées. C'est le même débat. C'est-à-dire que il y a une population dominante qui considère que elle est la norme et le droit a été construit pour elle et qu'elle va avoir la gentillesse d'intégrer d'autres qui ne sont pas au même niveau. Alors c'est cette représentation-là, je crois qu'il faut un petit peu casser en se disant mais on a tous la même égalité de droit, on est tous logés à la même enseigne et il n'y en a pas qui ont plus de droits ou moins et c'est pas aux dominants d'accepter, d'avoir le grand cœur, d'accepter les autres, non. Il y a eu une mauvaise donne à un moment qui fait qu'on s'est permis comme ça de construire ces barrières, de construire cet apartheid-là. Et aujourd'hui, on est en train de casser ça par plein de moyens différents. Je trouve que la radio, c'est super. Effectivement, la visibilité de personnalité aussi, c'est très bien, mais combien de personnes... moi, je rencontre régulièrement, hein, que ce soit des comédiens, etc., qui sont, par exemple, très malvoyants ou très malentendants ou qui ont été hospitalisés, comme vous disiez tout à l'heure, en psychiatrie. Faut pas le dire, surtout faut pas le dire, faut pas que ça se sache. Alors le jour où on sera plus à l'aise avec ça, où on dira bah ouais, effectivement j'ai eu un moment comme ça où j'ai été hospitalisée en psychiatrie, ça a duré 2 mois, puis je suis revenue. Voilà, comme de temps en temps, on a un cancer, on est hospitalisé, on est opéré, puis on revient. Il y a ce gros travail là à faire.
Et les personnes handicapées sont peut-être la prochaine minorité qui va se faire entendre.
Ah ben on espère, on est là, hein, en fait, c'est ce qu'on fait, ouais.
Merci à tous les deux, merci à vous Anne-Sara Kertudo, merci également à Alfredo Oliveira d'être venu pour nous parler de vos engagements pour une autre vision du handicap. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier en coulisses, et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation comme chaque vendredi, comment réveiller la créativité des enfants à l'école et ailleurs, à quoi bon susciter leur imaginaire. À demain les voisins.